Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 2 juillet 2026. C'est donc la dernière édition pour cette saison 2025-2026. Les infos reprendront à la rentrée, bien entendu, sur le même rythme, plus ou moins. Et d'ici là, on en profite pour vous donner cette première actu qui nous concerne, nous, à la radio, à savoir que c'est donc l'été et la grille estivale qui va se mettre en place dès ce lundi. Vous y retrouverez toutes les émissions, enfin quasiment toutes les émissions de l'année rediffusées sur un rythme du coup hebdomadaire, ce qui vous fait une grille bien remplie, bien chargée, c'est chouette. C'est l'occasion de faire un gros rattrapage pour les retardataires et les cancres que vous êtes. Donc vous pouvez écouter un petit peu tout ce qui s'est dit par les bénévoles, mais pas que. Et on va vous rajouter aussi quelques petites touches personnelles, un peu de création sonore. Des émissions produites pendant l'été à droite à gauche, des petites pépites aussi qu'on a retrouvées dans la vieille malle à souvenirs de la radio. Je vous laisse aller sur le site, on va mettre la grille en ligne là dans la journée. Vous pourrez vous faire ainsi votre petit programme estival. Allez, l'actualité oblige et la température m'y oblige aussi. De toute façon, on va parler pas mal environnement et climat dans cette dernière édition. Déjà, du coup, très concret hein, pour la chaleur, même si là, le vent a permis de faire redescendre un petit peu les températures tout en étant assez énervant. Dès ce vendredi, les températures vont repartir à la hausse. C'est ce qu'annonce Météo France. Le répit n'aura donc été que de courte durée. Une nouvelle hausse des températures dans le sud dès la fin de la semaine, mais aussi pour toute la France la semaine prochaine. Donc autour de vendredi, samedi et surtout dimanche, on va risque de repasser dans les 40 ici sur le territoire. Ce qui me permet de passer directement à la suite et évidemment faire un petit bilan des incendies qui ont eu lieu ces derniers jours. Hein. 1200 hectares parcourus par les flammes près de Marseille, dans l'Hérault et dans l'Aude sur ces 2-3 derniers jours. Ces feux qui n'ont heureusement pas fait de victimes touchent tout le sud de la France. Et je vous le disais, alors que ce nouvel épisode caniculaire se profile et que 6 départements font face à un risque très élevé d'incendie. Pour ce qui était de l'Aude, maintenant le feu est fixé, c'est 900 hectares qui ont été parcourus au-dessus du Minervois, et pour les Bouches-du-Rhône, c'est autour de la commune de Rognac que le feu est aussi fixé. Celui de Lançon est stabilisé d'après les pompiers. Le feu de Rognac a été fixé ce matin peu avant 4h du matin, après avoir mangé 40 hectares de végétation. Toutes les personnes ont été évacuées pendant la nuit, elles ont pu réintégrer leur domicile. L'incendie de Lançon de Provence, lui, est stabilisé sur le flanc gauche avec protection de toutes les maisons, parce qu'on est quand même dans des zones très habitées autour de la périphérie de la métropole de Marseille. 260 hectares pour Lançon dans un massif forestier et, je vous le disais, 35 hectares brûlés à Rognac. Et alors que plus de 80 départements sont en vigilance sécheresse et que les appels à politiser les canicules se multiplient, il devient urgent de politiser aussi l'accès à l'eau. C'est ce que nous écrit le journal Reporter dans une de ses brèves. Car pendant que tout le pays cherche la fraîcheur, les sénateurs débattent depuis ce lundi 29 juin d'une loi agricole, la LUA, la loi d'urgence agricole dont je vous ai parlé régulièrement. Cette loi risque encore d'augmenter notre vulnérabilité à la sécheresse. Celle-ci reprend en partie les demandes du principal syndicat agricole français, la FNSEA, plutôt de l'agriculture productiviste. Les sénateurs donc reprennent ces demandes et ont déjà ajouté des amendements en plus dans cette loi. Des amendements pour affaiblir la protection des zones humides ou qui placent les agences de l'eau sous la cotutelle du ministère de l'Agriculture. Autant de décisions qui, vous l'aurez compris, auraient comme effet de renforcer la mainmise des représentants de l'agriculture industrielle sur les usages de l'eau. Comme le confie un riverain d'une usine d'embouteillage en Auvergne, là où on met l'eau en bouteille, j'imagine que c'est du côté d'Évian. Ce riverain a vu ses sources se tarir sur son territoire. Il a dit ceci, nous ne sommes pas en sécheresse, nous sommes asséchés. Le 21 juin, les députés avaient déjà validé la simplification, entre guillemets, administrative du stockage d'eau et de l'irrigation agricole. Ça, c'est l'article 5 de cette LUA. L'article 6 donnera au préfet le droit de passer outre les décisions prises démocratiquement pour ce qui est des bassins versants pour imposer des retenues d'eau. L'objectif est clair pour eux. Face aux sécheresses et au réchauffement climatique, le gouvernement entend coûte que coûte accélérer le déploiement des méga-bassines partout dans le pays.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Et un autre dossier qui se clôt sur les thématiques de grands chantiers, celui de l'A69, il se clôt en tout cas juridiquement pour ce qui est de la France. En effet, le Conseil d'État vient de prendre sa décision, qui va dans le sens donc de la reprise du chantier, le validant, et cette décision pourrait faciliter les grands projets d'aménagement pour l'avenir, c'est ce qu'inquiète en tout cas nombre d'associations environnementales. Ça fait 3 ans que... Le sort de cette autoroute A69 et son gros dossier arpentent les différentes juridictions administratives. Il semble aujourd'hui définitivement scellé. Depuis ce lundi, le 29 juin, le Conseil d'État a en effet validé les autorisations du chantier de l'autoroute, qui, je le rappelle, s'étale sur 53 km entre Toulouse et Castres. Et donc le Conseil d'État a ainsi rejeté tous les recours formulés par plusieurs associations. Un des enjeux principaux pour comprendre sur quoi s'est basée cette décision, c'était de déterminer si oui ou non il existait une RIIPM, ça veut dire raison impérative d'intérêt public majeur, dans ce dossier. Ils ont mis impérative et majeur dans le même truc pour dire que c'est vraiment très très important. C'est une notion juridique qui est définie par le droit européen et transposée ensuite dans le code de l'environnement, qui est une des 3 conditions qui peut permettre à un chantier ou à un projet de déroger justement au principe de protection des espèces et des habitats. C'est d'ailleurs sur cette notion et en débattant là-dessus qu'en février 2025, que le tribunal administratif de Toulouse avait annulé en première instance l'autorisation du chantier de la 69. C'était à l'époque une victoire pour les anti-autoroutes. Le tribunal administratif de Toulouse avait expliqué sa décision en arguant donc qu'il n'existait pas d'enclavement du bassin de Castres-Mazamet, car cette autoroute est construite d'après les autorités et les pouvoirs économiques en place pour désenclaver cette ville. Et donc, ils ont prouvé qu'il n'y avait pas d'enclavement ni de décrochage économique ou démographique de la zone qui pourrait justifier la construction de l'autoroute. 1 an et demi plus tard, donc, le Conseil d'État vient de donner sa propre interprétation de cette notion clé dans le droit environnemental. Et donc, malgré l'absence d'une situation critique, que ça soit démographique ou économique, pour ce qui est du bassin de Castres-Mazamet, qui s'en sort très bien jusque-là avec sa nationale, le Conseil d'État a tout de même relevé l'existence donc, d'une fameuse RIIPM dans ce dossier. Je vous rappelle la raison impérative d'intérêt public majeur, et c'est grâce à ça que le concessionnaire Atosca a l'autorisation de terminer les travaux de cette autoroute A69. Et là, on est dans l'interprétation. C'est ce qu'explique Alice Terras, l'avocate d'une partie des associations qui s'opposent à la 69. Elle est spécialisée en droit de l'environnement. L'interprétation de la RIPM dans la décision du Conseil d'État est très préoccupante, dit-elle. Ça semble opérer un glissement dangereux vers une raison impérative par nature qui serait accordée de fait à ce genre d'infrastructure dans l'avenir, donc quelle qu'elle soit. Les porteurs de projets pourront s'appuyer sur la jurisprudence. Ils n'auront même plus à justifier l'absolue nécessité de leur projet pour le construire s'ils sont attaqués devant des tribunaux. Et si on parle de l'environnement et des espèces qui sont menacées dans ces travaux, l'enjeu des espèces protégées est traité de manière bien plus superficielle dans la déclaration d'utilité publique que dans cette RIPM. Donc la décision du Conseil d'État ouvre la voie au fait que tous les projets qui peuvent être reconnus d'utilité publique seront quasiment automatiquement garantis dans le label RIPM, ce qui va faciliter tous les grands projets d'aménagement. C'est une certitude, dit-elle. Le collectif La Voie est libre, qui regroupe nombre d'associations et de riverains opposants, annonçait de son côté avoir déposé une plainte contre l'État français, c'était ce mardi, suite à la décision du Conseil d'État, une plainte déposée auprès de la Commission européenne pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Les juges devront alors déterminer si le Conseil d'État français a mal interprété ou non ces fameuses directives européennes pour motiver cette décision. Donc c'est pas fini, mais quand même au niveau de la justice française, c'est un gros revers. Pour Alice Terras encore, donc l'avocate des opposants, ces arguments du juge administratif suprême tendent à affaiblir encore un peu plus le droit environnemental dans le pays. Au fil du temps, les conditions à respecter pour obtenir cette dérogation sur les espèces protégées, donc pour avoir le droit de détruire des plantes ou des habitats d'animaux, eh bien, ces conditions s'effondrent. La dérogation, c'est pourtant l'un des derniers remparts juridiques pour s'opposer à ce type de projet. Depuis quelques années, il est rappelé que plusieurs lois tendent en effet à assouplir déjà la notion de RIPM pour certains projets. Par exemple, la fameuse loi Duplomb qui a été votée en 2025, qui prévoit une présomption donc de cette fameuse toujours impératif majeur, la RIPM, pour construire des réserves d'eau d'irrigation agricole, les mégabassines, ou bien pour accélérer la production d'énergie renouvelable. Ça, c'est une loi du 10 mars 2023 pour certains projets dans le secteur. Il n'y aura bientôt plus de possibilités pour attaquer un projet sur ce fondement. C'est extrêmement inquiétant. Alerte encore une fois cette avocate.
L'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
Jusqu'au fond des océans même, visiblement, la toxicité est là. On lit ce reportage aussi dans les colonnes du journal Reporter, un reportage qui nous emmène au fond de l'Atlantique, où gît un vrai cimetière de fûts radioactifs. Une expédition montée par l'Ifremer a en effet collecté des échantillons autour de ces fûts, donc des gros barils métalliques qui contiennent des déchets radioactifs. Ils sont immergés au fond de l'océan Atlantique, ils y étaient immergés jusqu'à 1990. Aujourd'hui, l'heure est à l'analyse pour comprendre les effets de cette pratique sur les fonds marins. On est à 4700 mètres de profondeur, dans les plaines abyssales de l'Atlantique Nord-Est. Sur la vidéo qui a été tournée dans ce petit, dans le Nautil, le petit sous-marin scientifique de 8 mètres de long, la seule lumière provient de ces projecteurs, et donc ça permet d'avoir des images du fond de nos océans. C'est la seule manière de voir ce qui s'y passe, c'est assez dingue, c'est d'envoyer un sous-marin et de filmer. Ce qui est saisissant, explique un des scientifiques, c'est l'approche des fûts de déchets radioactifs. On en voit un, puis deux, puis trois, puis quatre. C'est Patrick Chardon, qui est ingénieur de recherche au CNRS, qui raconte cela. Il est spécialiste de la mesure de la radioactivité dans l'environnement. Et la plupart de ces fûts, donc, qui sont là depuis des décennies, sont dévorés par la rouille. Les parois ondulées sont complètement corrodées, avec des couleurs très vives, très rouges. On devine encore de la peinture et des marquages sur certains fûts, le symbole de la radioactivité, des étiquettes, des inscriptions, et tout autour aussi d'ailleurs des déchets plus récents, comme des sacs plastiques, des bouteilles ou bien des pots de peinture. C'est ce qu'explique là Javier Escartín, qui est directeur de recherche au CNRS lui aussi, et au laboratoire de géologie de l'ENS. Il est donc spécialiste des océans profonds. Autour donc de ces fûts radioactifs, une explosion de coraux, d'éponges, de crabes et d'anémones. Et ça, c'est ce qui a aussi pas mal surpris les scientifiques. Et aussi l'invisible balai donc, de ces particules radioactives, les radionucléides, c'est le nom scientifique des atomes radioactifs qui sont relâchés donc, par ces fûts. Les images spectaculaires ont été tournées lors de cette deuxième campagne d'une mission qui s'appelle NODSUM, pilotée donc par les deux chercheurs dont je viens de vous parler, Patrick Chardon et Javier Escartín. Cette mission a pour but de comprendre le comportement de la radioactivité dans l'océan profond. Petit point histoire, qu'est-ce qu'ils font là, ces fûts ? Entre 1946 et 1990, avant donc que la pratique soit interdite par la Convention de Londres, c'est au moins 200 000 fûts de déchets enrobés de ciment, de bitume ou de résine qui ont été balancés dans la zone par plusieurs pays européens. À la fin des années 70, on pouvait voir d'ailleurs les images à la télévision, ils s'en cachaient. Et on voyait les images de Greenpeace, les Zodiac et les barils qui tombaient à la mer pour essayer de les empêcher. Une image qui m'est restée d'ailleurs, se rappelle ce chercheur Javier Escartín, qui l'a motivé à faire carrière là-dessus. Puisque Greenpeace alertait sur la pratique et tentait d'empêcher ces largages de barils radioactifs. Patrick Chardon, lui aussi, a été frappé d'ailleurs, dit-il, par le contraste entre l'image du nucléaire comme d'une énergie d'avenir, une énergie propre, et le fait que ces déchets aient été rejetés au fond de l'océan. Puis plus rien. On a arrêté, mais les colis, eux, sont restés au fond. Ils ont été oubliés dans ce cimetière marin pendant 3 décennies, sans que des évaluations régulières des sites qui avaient été promises ne soient jamais réalisées. Il faut dire qu'à 4000 mètres de fond, techniquement, c'est assez costaud. Donc voilà, c'est pour tout ça que cette étude est menée. Des analyses en laboratoire vont donc peut-être permettre d'obtenir des mesures plus précises. Mais ils ont déjà détecté des radionucléides qui ne correspondent pas à ceux qui sont normalement présents dans la zone. Notamment, il y en avait aussi à cause d'anciens essais nucléaires. Donc, ils ont trouvé du cobalt 60, du plutonium 239, 240 et pas mal de césium 137 et de l'américium 241. Bon, le chercheur ne s'attend pas à des découvertes catastrophiques, hein, il tempère quand même. Le fond marin en question, dit-il, on n'est pas à Tchernobyl, hein. C'est un site de stockage de déchets de très faible à faible activité. Ce ne sont pas les barres d'uranium directes qui sont jetées, mais quand même des volumes très énormes de l'industrie nucléaire qui en finit là. Et leur première surprise pour ces chercheurs, ça a été quand même la biodiversité qui était présente autour de ces tas de fûts. À l'époque où les décisions d'immersion ont été prises, ce qui l'a justifié, c'était la croyance qu'il n'y avait pas d'écosystème d'intérêt dans ces grands fonds marins, et que donc on pouvait bien y balancer un peu de radioactivité. Or justement, cette mission scientifique a découvert que les fûts avaient été adoptés et utilisés comme des récifs artificiels par des anémones, des coraux, des crabes, des holothuries et de nombreux poissons, qui sont contents d'avoir un peu de relief sur lesquels s'accrocher, alors que là-bas au fond, normalement c'est un peu désertique, hein, les fonds marins. Les matériaux qui sont collectés vont continuer d'être analysés pendant plusieurs mois. La première tâche pour cette équipe sera de quantifier précisément la radioactivité et de recenser les radionucléides présents, dont certains sont assez complexes à mesurer. Et ensuite, il s'agira d'étudier justement la manière dont ils vont contaminer le vivant, notamment par le biais des micro-organismes et de toute la chaîne alimentaire au-dessus, et aussi peut-être éventuellement de voir quelles modifications génétiques l'exposition à la radioactivité entraîne sur les populations donc, qui trouvent refuge dans ces petits îlots. Les fûts sous-marins ne sont malheureusement pas les seuls rebuts radioactifs qui reposent dans le silence et l'obscurité des fonds marins. On y trouve aussi des déchets radioactifs dont l'immersion illégale est documentée en Méditerranée. Celle-ci est attribuée à des mafias italiennes, mais aussi des sous-marins nucléaires qui, visiblement, toutes dans leur discrétion, vont larguer de temps en temps des déchets au fond des océans. On peut aussi parler, c'est pas mentionné dans cet article, mais de l'énorme pollution industrielle qui a fait suite à la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, où de nombreuses armes justement qui ont été saisies aux vaincus ont été immergées par le fond, les bateaux ont été coulés et ils sont remplis de gros déchets toxiques aussi. Et puis au bout d'un moment donné, quand les fûts et les contenants métalliques auront fini de rouiller, tout ça se libère dans l'environnement. Et pour ce qui est de l'avenir, un petit peu des enjeux, l'essor, l'explosion même de l'exploitation des nodules polymétalliques, hein, vous savez, c'est quand on va chercher au fond des océans des petites concrétions rocheuses qui sont riches en matériaux stratégiques, comme du nickel, du cobalt, du manganèse et du cuivre, très utiles pour les nouvelles technologies, eh bien l'essor de cette exploitation pourrait aussi remettre d'ailleurs de la radioactivité en circulation dans l'océan profond.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Voilà, on n'a qu'à dire ça. Allez, on va terminer ces nouvelles du monde avec un petit passage un petit peu édito. Puisque, de toute façon, je rends l'antenne pour 2 mois, que l'actualité est chaude et brûlante, voire complètement affligeante. Eh bien, je reprends les mots de Laura Constant, qui fait une chronique, une revue de presse très détaillée, notamment sur les questions climatiques, environnementales et politiques qui en découlent sur Internet. Et voici ce que lui a inspiré les derniers débats autour de la climatisation et de la canicule. Voilà. Je me permets de réagir à une publication apparue il y a quelques jours, nous enjoignant de considérer la situation actuelle comme un dilemme entre accepter de vivre dans une fournaise avec un niveau de vie réduit pendant 4 siècles, ou bien doubler voire tripler notre parc nucléaire, installer des clims partout, mettre en place des traitements de l'eau massifs et investir dans la capture du carbone. Ce débat nous renvoie une fois de plus à un simple arbitrage entre différentes solutions technologiques et retarde d'autant toute réflexion sur les causes systémiques du problème. D'après l'auteur donc de la communication sur laquelle elle réagit, l'échec du modèle renouvelable allemand, le fait que la neutralité carbone mondiale ne sera pas atteinte à temps, il cite l'exemple de l'Inde, et aussi l'impératif d'adaptation au réchauffement climatique, tout cela nécessitera la construction d'un parc nucléaire de 60 nouveaux EPR pour nous climatiser et traiter l'eau, faute de quoi le niveau de vie français serait donc réduit par 4 ou 5. Outre le fait que ces chiffres sont visiblement sortis de son chapeau, le nucléaire pose déjà plusieurs problèmes insolubles. Et la voici donc qui nous les cite. D'une part, nous ne savons toujours pas traiter les déchets radioactifs durablement. L'enfouissement, tel que prévu par le projet Cigéo à Bure, coûte des dizaines de milliards d'euros, sans aucune prévisibilité future, et ne repose d'ailleurs sur aucune certitude scientifique de son innocuité, de sa non-dangerosité. La construction de nouvelles centrales, en deuxième point, nécessite des quantités stratosphériques de béton. Le béton est, vous le savez, son principal ingrédient, le sable, qui se raréfie à vue d'œil et qui nécessite des quantités astronomiques d'énergie pour être transformé. Elle rappelle aussi que l'uranium est aussi une ressource rare, on ne le produit pas en France. D'après le CNRS, les réserves planétaires prouvées s'élèvent à 6 millions de tonnes, ce qui permet seulement de quoi assurer un petit siècle de consommation au rythme actuel. Et encore moins, d'ailleurs, si on augmente nos consommations électriques en généralisant la climatisation et le traitement de l'eau. Le recyclage de cet uranium ne permet de repousser cette échéance que de 40 ans. L'extraction et l'enrichissement de l'uranium nécessitent lui aussi, d'ailleurs, des quantités importantes d'énergie et son lot de destruction environnementale. Elle rappelle aussi que, puisqu'on parle d'électricité, la production d'électricité n'est pas synonyme de son bon acheminement. Comme nous l'avons vu ces derniers jours, les défaillances d'un réseau électrique ancien et non pensé pour résister à de telles températures nous laisseront de plus en plus vulnérables à des coupures de courant des plus meurtrières. Là encore, la rénovation du réseau électrique et la mise en service de 60 nouveaux EPR supposeraient l'accès à des ressources qui sont aujourd'hui en tension. Par exemple, on peut parler du cuivre pour faire les câbles. Et en plus, ces ressources ont un bilan environnemental que ça soit au niveau de l'extraction ou de la transformation, peu reluisant et qui nécessite là aussi des financements considérables. Mais surtout, dit-elle, réduire le problème au nucléaire, c'est sans compter sur une réalité autrement plus terre-à-terre. L'alimentation, ce qu'on va manger. Comme le soulignait récemment l'agroclimatologue le docteur Serge Zaka, qui habite juste à côté de chez nous, là, il rappelle qu'il est impossible de trouver une race de vaches laitières ou un arbre qui résiste à 50 degrés Celsius. On aura beau climatiser les êtres humains, on ne pourra plus les nourrir. Réduire le problème au nucléaire, c'est faire fi de l'extinction de masse du vivant à laquelle nous assistons. On a parlé de l'hécatombe dans les élevages, mais très peu de l'hécatombe chez les oiseaux, les poissons ou les insectes. Tous les refuges de protection de la faune aviaire ont été dépassés cette semaine. Et les médias grand public sont allés d'ailleurs jusqu'à couvrir ce phénomène de raréfaction des moustiques sans en tirer la moindre conséquence. Or, les animaux pollinisateurs, on parle des oiseaux, des chauves-souris ou des insectes, sont responsables de la pollinisation de 70 à 90% des plantes. Pollinisation qui permet que la fleur fasse des fruits et donc des légumes. Quel meilleur moment, dit-elle, aurait pu trouver le Sénat justement pour réintroduire deux pesticides qui accélèrent l'extinction de ces fameux insectes pollinisateurs? Eh bien, c'est maintenant. Et enfin, elle rappelle, s'il était besoin et si la fermeture du détroit d'Ormuz ne l'avait pas déjà fait, que la production fossile actuelle ne sert pas qu'à produire de l'énergie et du carburant, mais aussi des engrais, des médicaments et du plastique, y compris des fringues. Tous ces produits dont il sera très difficile de se passer, notamment pour ce qui est des engrais, compte tenu de l'état des sols après 80 ans d'agriculture intensive, si on veut continuer à se nourrir, même mal. Donc, dit-elle, l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, c'est encore et toujours notre organisation économique et collective. Le régime d'accumulation qu'est le capitalisme nécessite la transformation des ressources pour dégager une plus-value, hein, la fameuse croissance. Pour perdurer, l'économie financiarisée actuelle dépend de cette croissance. Les tech bros, comme le gars qui avait écrit ce post qui l'a énervé, auront beau agiter les promesses de l'IA pour faire rêver à des gains de productivité, d'autres bulles financières, la généralisation de l'IA ne révolutionne pas cette loi fondamentale, qu'il faut des ressources. Alors évidemment, vu de chez nous en France, certaines économies ont pu, bénéficier d'un découplage relatif entre leur croissance et la mobilisation des matières premières ces dernières années. On ne les voit plus, ces usines. En effet, c'est juste parce qu'elles ont délocalisé les industries qui émettent le plus de CO2. Et donc on peut dire qu'on fait des trucs CO2 neutres. En fait, non, c'est aussi parce qu'on utilise des matériaux qui viennent de pays où il n'y a même pas de mesure. L'Agence européenne pour l'environnement avançait déjà en 2021 qu'il se peut que le découplage absolu de la croissance économique et de la consommation des ressources ne soit pas possible. En d'autres termes, ce dilemme entre réduction du niveau de vie et le nucléaire n'en est pas un. Quoi qu'il arrive, les ressources disponibles vont s'amenuiser si on perdure dans ce système productif qui dépend de l'extraction croissante des matières premières. Et le tout, en plus, se faisant sur le dos d'une exploitation humaine atroce. Parce qu'avant de parler d'écologie, on parlait déjà des ravages du capitalisme. En réalité, le niveau de vie de la majorité de la population s'amenuise déjà à mesure de l'élargissement des inégalités et de tous ces chocs successifs, hein. Catastrophes naturelles, pandémies, guerres successives. Le dilemme, dit cette Laura Constant, serait plutôt de qui allons-nous réduire les ressources et jusqu'à quel point et selon quelle organisation productive. Mais ces questions-là, évidemment, on met évidemment tout en œuvre pour qu'on ne se les pose pas. Et elle termine en disant « Coucou la clim, Yann Barthès, Luc Ferry ou la terreur du canal Saint-Martin, les derniers choux gras qui ont occupé tous les médias en boucle ces derniers jours. » Allez, voilà, vous voyez, je sens que je chauffe moi aussi un petit peu en cette fin d'année. C'est donc bien l'heure d'aller se rafraîchir un petit peu et de prendre des vacances, en tout cas pour ce qui concerne l'actualité. Faudrait pas se faire un burn-out en pleine canicule et rajouter ainsi du chaud au chaud. Je vous souhaite donc un bon été. On reste là sur les ondes et au studio quand même en équipe. On vous prépare la rentrée et d'ici là, je le disais, on a une nouvelle grille d'été qui nous ravit. Allez, ouvrez les oreilles, ouvrez la radio, allez voir sur notre site. On vous mettra justement tous les horaires et les cases. Ça sera l'occasion de vous faire presque toute l'année d'escapade en 2 mois seulement. Grosse session rattrapage. De toute façon, s'il fait trop chaud pour sortir, ça sera une chouette occupation. Voilà. Et j'en profite pour vous rappeler qu'écouter la radio, en tout cas à la FM, ça crame beaucoup, beaucoup moins de CO2 que de passer par Internet et ses data centers. Et encore, et surtout qu'il est beaucoup mieux d'écouter du son que de la vidéo. Voilà. Et comme je n'ai pas envie de m'éterniser, je vais laisser le mot de la fin à Walidia qui était hier sur Nova dans la riposte. Comme ça, les insultes et les coups de gueule, c'est pour lui. Voilà, petit big up à tous les autres camarades qui font de la radio à droite à gauche et qui ne baissent pas les bras. Allez, ciao ciao tout le monde. Et puis de toute façon, on se retrouve quand même sur les ondes pour des petites émissions en studio, des agendas culturels, etc. etc. Bisous.
Bon, depuis le temps qu'il nous parle là, d'islam, de musulmans, d'OQTF, radicalisés, d'islamo-merguez, tout ça, on parle pas d'écologie, on est d'accord ? Un résultat, ils ont pris toute la place médiatique et c'est tout un temps perdu. On aurait pu parler d'isolation, de végétalisation, d'énergie renouvelable. Mais comme on est dans un pays où on préfère parler des arabes que des arbres, on est tous là à suer du cul avec Yann Barthès qui se fout de notre gueule. Hein ? C'est à cause du printemps républicain qu'on se tape un été caniculaire. Elle est belle, celle-là. Il n'y a pas que, hein, parce que grâce à la droite et l'extrême droite et leur manche-boule, ça fait des décennies qu'on passe à côté du sujet. Tu sais, les scientifiques qui parlent d'écologie, personne ne les écoute. On dirait les Glucksmann. D'ailleurs, les racistes, sachez que le réchauffement climatique va par définition vous transformer en arabe. Faut le savoir. Va falloir faire péter les djellabas et les babouches si tu veux tenir le 45 degrés, mon grand. Le soleil va te donner une tête de kabyle, ce sera bien fait pour ta gueule. Commencez à commander des abayas pour la nif de la petite parce que ça va être la mode. Cher Gabriel Attal. Et hop. Et encore, hein. Il est capable de revenir pour les rendre obligatoires, ce petit couillon imberbe. Si vous croyez que votre problème, c'est l'insécurité, attendez de voir ce qui va se passer quand il n'y aura plus assez d'eau. Là, même ta voisine Véronique, secrétaire de direction, divorcée, 2 enfants, qui te dit bonjour avec la voix de Blanche-Neige, elle pourra t'ouvrir le ventre à la roulette à pizza pour boire ta vessie, mon grand. Et la viande qui reste, elle va la filer à ses gosses. Donc la priorité, ce serait pas, par exemple, je sais pas, de pas crever d'ici 10-15 piges, par exemple. Parce que ça parle de la fin de vie, de loi sur la fin de vie, mais là, on est sur du suicide assisté par le soleil. Hein, t'as plus besoin de mettre ta tête dans le four, t'as juste à mettre ta tête à la fenêtre. Après, quand t'es mort, t'as moins chaud, t'as moins de problèmes de logement, t'as moins de problèmes de pouvoir d'achat. En fait, c'est ça la solution du gouvernement. Tu veux une vie meilleure, meurs. Avant la retraite, hein, si possible. Parce que les seuls qui ont droit d'être payés à rien foutre, c'est les ministres. On n'oublie pas ça, d'accord ? Donc, maintenant, pour tous les climato-sceptiques, ouais, il n'y a pas de réchauffement climatique, j'ai éternué hier soir, coup de tête autorisé. Vraiment, ouais, on a le droit. On a le droit, c'est de la violence légitime, selon l'article 243, alinéa 8 du code de Mange-t'es-mort, grand pique-nique dans le caveau familial. Pareil, hein, pour cette classe politique d'incapables, enfin, non, si, ils sont capables, c'est juste qu'ils bossent pas pour nous, hein, ils bossent pour les ultra-riches qui crachent plus des CO2 en 10 minutes que toute ta famille en 10 ans, et pour qu'ils puissent se payer un troisième yacht. Hein. Vous comprenez pas, vous, parce que vous y connaissez rien en yacht. Les gauchos, là, qui sentent des aisselles, l'ammoniaque à 7h du mat' parce que vous mettez un déo solide sans aluminium. Ouais. C'est bien, mais mon gars, tu sens le cheval, d'accord ? Ah, mais c'est vous qui avez raison. Je veux dire, on traite les milliardaires comme si on en avait besoin et on traite la nature comme si on n'en avait pas besoin. Y a pas de vanne, hein, c'est juste, ça m'arrive à... Pas de vanne, c'est juste des fois je dis des trucs sensés, toutes les années bissextiles, quoi. D'ailleurs, la Cour de justice européenne vient de classer les jets privés comme investissement écologique. Hein, voilà. Ouais, là non plus, il n'y a pas de vanne, c'est juste pour vous foutre la rage gratuit. Enfin non, c'est pas gratuit d'ailleurs, parce que maintenant, les aides européennes de protection du climat, payées par vos thunes, elles iront directement chez Dassault, voilà, pour qu'ils puissent fabriquer encore plus de jets. Hein, elle est pas belle la vie. Enfin, elle est pas belle leur vie, parce que nous, on va faire un joint de culasse dans pas longtemps s'ils continuent. Hein, comme d'hab, on peut pas compter sur le gouvernement. À chaque fois qu'il y a un problème, on se rend compte qu'on est tout seul. Hein, le Covid, 0 sur 20, la crise économique, 0 sur 20, la canicule, 0 sur 20. C'est de la politique ou c'est le bulletin scolaire de Bardella, là, on est perdu. Alors quand je les vois nous parler d'aller faire la guerre, s'ils sont capables d'envoyer tous les plus de 15 ans sur le front avec des palmes et des fourchettes. Et les fourchettes, faudra qu'elles viennent de chez toi, d'accord ? Ouais, et là, ils ont laissé les gamins partir à l'école avec des températures de l'Arizona. Tu me diras, ils les protègent déjà pas des violeurs. Alors la chaleur, c'est un détail. Ouais, nos dirigeants, ils brassent tellement de vent, tu peux en mettre un dans chaque classe, ça rafraîchira tout le monde. C'est pour ça, 2027, va falloir mettre le nez dedans. Hein. Pareil, hein, le prochain qui nous dit voter, ça sert à rien, coup de coude, direct. Ouais, ouais. Ouais, ça fera du silence en plus et du CO2 en moins. Ouais. Merci, j'arrête là, c'est pas l'émission à mon père non plus.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à midi et demi sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.